Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes. Et aujourd'hui, on accueille Anaïs, qui est scénariste, et on va entrer un petit peu, découvrir le monde du cinéma. Anaïs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Je crois que tu viens de Toulouse au départ. D'où c'est venu cette idée de devenir scénariste, de monter à Paris? Comment, pourquoi, dans quel ordre?
Alors, c'est un peu le gros fouillis, cette histoire d'ailleurs, mais je vais essayer de la simplifier au maximum. Mais oui, à la base, je suis toulousaine et j'ai fait des études de commerce, donc absolument rien à voir avec le cinéma. Je regardais toutes les années les Césars à la télé. J'avais cette petite voix en moi qui m'appelait vers le cinéma, mais je ne l'avais pas encore entendue. Et du coup, donc je baignais dans le sud, dans des études de commerce. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais purée, je te vois tellement faire de la comédie, tu n'y as jamais pensées. Et là, je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien le cinéma, pourquoi pas? On m'a parlé des cours Florent. Et là, comme les cours Florent, c'était à Paris, j'ai réussi à négocier avec mes parents pour qu'ils me paient le stage d'entrée des cours Florent que j'avais fait passer pour un stage d'été, bien sûr. Donc, je suis arrivée sur Paris, je me suis dit, comme ça, je fais une pierre deux coups, je viens découvrir la capitale pour voir si je m'y plais et surtout, je vois si j'aime être devant la caméra. Donc, j'ai fait le stage d'entrée en tant qu'actrice au départ. J'avais bien aimé, j'avais été acceptée, mais je n'avais pas donné suite parce que, un, être devant la caméra pour moi, ce n'était pas ma place, je pense. Et deuxièmement, c'est que je n'avais pas réussi à négocier pour pouvoir aller plus loin avec mes parents, puisque j'étais encore dépendante d'eux financièrement. Donc, j'ai continué mon chemin dans l'école de commerce, j'ai fait mon master, mais j'avais passé un cap, c'est que maintenant j'habitais à Paris. Donc, je m'étais quand même un peu émancipée de mes parents. Et puis, même si j'ai commencé à travailler dans le monde professionnel en tant que commerciale, il y a eu un moment où je sentais au fond de moi que ça marchait pas du tout et j'en suis tombée malade. J'ai fait un burn-out à 24 ans, alors que je travaillais dans une entreprise qui œuvrait pour le bien-être des salariés. Donc c'était vraiment fou cette histoire. Donc j'ai fait un burn-out et là d'un coup, un soir, j'ai eu un déclic vraiment. J'ai eu une idée de série. En fait, j'écrivais tout le temps dans ma vie. J'écrivais des poèmes. J'ai même fait un compte Instagram sur des poèmes. J'ai écrit beaucoup sur des cahiers, mais je me suis jamais dit que j'aimais écrire. Comme c'était tellement quelque chose de fluide pour moi, j'avais pas eu cette réflexion. Et ce soir-là où j'ai eu ce miracle, vraiment pour moi, c'est un déclic incroyable que j'ai vécu. Énergétiquement, c'était fou. J'ai eu cette idée d'écrire une série sur un outil de psychologie qui s'appelle l'Ennéagramme. Si tu connais, mais j'adore cet outil. Et du coup, je me voyais faire la série, tout s'est décanté dans ma tête. J'avais vraiment toute la première saison qui est apparue, où du coup les personnages étaient autour de cet outil-là. Et j'ai eu donc tous les sujets qui sont venus de l'histoire. Et en fait, la sensation que j'ai ressentie ce soir-là où j'étais dans l'écriture, parce que du coup, moi, j'ai écrit dès le début. Hein. J'ai eu cette idée, j'ai pris un cahier, j'ai commencé à rédiger tout ce que j'avais. Et en fait, ça m'a mis dans le mood et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais faite pour ça. Et comme donc j'avais fait un burn-out, j'ai négocié pour une rupture conventionnelle. J'ai eu donc droit à des vacances payées, puisque j'étais au chômage. Et c'est arrivé pendant le Covid en plus, donc confinement, etc. Ben moi, j'ai vécu un super bon confinement malgré cette horreur extérieure. Moi, intérieurement, j'étais remplie parce que je me formais et j'écrivais. J'ai écrit donc la série et je me suis fait un petit réseau comme ça sur LinkedIn. Et puis maintenant, c'est devenu une partie intégrante de ma vie. J'ai continué à écrire la série, j'ai commencé à écrire des longs, j'ai même fini à écrire des longs. J'ai
Un
commencé.
long, c'est un long métrage?
Exactement, un long métrage. J'ai écrit la série au début, puis après un long métrage que j'ai coécrit avec un réalisateur.
Cool. Alors, on va approfondir tout ça un petit peu après. Juste, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'Ennéagramme? Moi, j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur ma chaîne YouTube là-dessus, mais pour ceux qui nous regardent, je suis sûre que ça va les intéresser.
Trop bien. Ben en fait, l'Ennéagramme, c'est un outil, on va dire, de développement personnel qui est basé sur la thématique. Quand on vient au monde, on a 9 personnalités différentes en nous. Et que entre nos 0 et 3 ans, on vit une histoire extérieure. Il y a quelque chose qui nous impacte. Cette histoire, on peut avoir la même, toi et moi, mais le sentiment intérieur, s'il est différent, c'est lui qui va générer un mécanisme de défense chez nous. Par exemple, mes parents, admettons, auraient divorcé entre mes 0 et 3 ans et toi aussi. Moi, le divorce, je le vis d'une manière de la trahison et toi, l'injustice. Ben, on n'aura pas le même mécanisme de défense différent parce que moi, ça va être basé sur la trahison et toi, sur l'injustice. Et au vu de ça, ben, je vais opter 8 des 9 personnalités et je vais en incarner qu'une seule. Par exemple, on peut être optimiste parce que si on se base sur l'énéagramme, quand on était jeune, on avait trop de barrières et trop de limites et du coup, on veut vivre comme un épicurien.
Mmh. Ouais, du coup, tu as identifié ton profil énéagramme ?
Moi, je suis 6, donc c'est-à-dire loyaliste.
Ok, le 6,
il est d'ailleurs basé sur le 4.
Non.
Il part sur le 3 et le 9. C'est le triangle au milieu intérieur.
Mmh. Ok.
Je pars dans le 9 quand je suis zen et je rétracte en 3 sous pression.
Ok, ça marche. Et donc, toi, ça t'aide au quotidien de connaître un peu plus ton profil ?
Bah, complètement. Moi, au début, dans mes relations, je comprenais. Bah, du coup, comme je suis quelqu'un, le 6 qui est très basé dans le néocortex, donc analyse, quand j'étais face à des personnes qui étaient basées. Émotions et qu'il les vivait à 100% et que moi je suis très je le contrôle tout ça je comprenais pas pourquoi j'avais en face de moi quelqu'un qui exprimait autant ses émotions alors que moi c'est pas quelque chose qui m'était familier et je me disais mais qu'est-ce qu'elle a cette personne, pourquoi elle n'arrive pas à contrôler ses émotions, et en fait j'arrivais pas à comprendre que ben non, c'était normal que les personnes, chacun a sa méthode de faire. Et au début, je ne comprenais pas parce que mes parents sont comme moi. Donc, il n'y avait qu'une seule et bonne manière de faire. J'avais été formatée comme ça. Et puis maintenant, vraiment, je me rends compte de tout le spectre. C'est fou et ça m'a beaucoup aidée. Ouais.
Mmh, ok, cool. Moi aussi, ça m'a beaucoup aidée, l'énéagramme. Je ne l'ai pas autant approfondi que d'autres outils, mais je trouve qu'il est assez intéressant et qu'il complète beaucoup. Enfin, il est très complet, quoi. Il regroupe un peu des éléments du MBTI, un peu des 5 blessures de l'âme. Il y a pas mal d'éléments qui se...
Et t'es quel profil, du coup ?
Alors, moi, je pense... Je n'ai jamais fait test... je ne sais pas s'il y a des professionnels habilités à le faire, mais en tout cas, dans ce que j'ai lu, je me retrouve dans le 2 avec une aile en 3.
Ah, ok, dingue. Mais c'est fou parce que
j'ai pensé au 2.
Ok.
De quoi ?
Quand je te vois, j'ai pensé au 2, ouais. L'altruiste, okay. Du coup.
Donc, du coup, t'as fait une série là-dessus. Est-ce qu'elle est sortie ? Est-ce qu'on peut la voir ?
En fait, je l'ai écrite. Enfin, j'ai écrit le premier épisode parce que quand tu écris une série, tu écris l'épisode pilote qu'on appelle. Donc, moi, je l'ai écrit, je l'ai fait relire, je l'ai modifié, etc. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'est parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais dès que j'ai une idée, je la mets sur Instagram et je la teste. Donc, j'ai créé un compte Instagram pour la série. Et ce compte-là, j'avais marqué donc le nom de la série qui s'appelle Daily, pour en anglais, tu sais, Daily _ la série. Du coup, j'avais fait un truc très officiel, mais qui n'était pas officiel puisque ça n'existait pas. Mais mon objectif, c'était de l'envoyer à tout le monde comme ça pour passer pour la personne qui était déjà crédible et qui avait déjà quelque chose. Pour aller discuter avec les gens. Et ben, figure-toi que ça m'a ouvert des portes. J'ai échangé avec Nicolas Bedos grâce à ça. Okay. J'ai eu plein de retombées. À ce jour, je n'ai pas eu de producteur. Pas encore. Il y a eu des discussions, etc. Mais le sujet est un peu mis de côté parce que la série, c'est vraiment... J'ai commencé par le plus gros chantier. J'en avais pas conscience au début, mais c'est vraiment très, très lourd. Et là, le projet est un peu en phase de maturation, si tu veux.
Mmh,
et j'espère qu'un jour, je t'appellerai, je te dirai, ça y est.
Yes. On en parlera dans la newsletter si tu
veux. Ouais.
Un lien pour qu'on aille regarder la série, grave. J'avais une autre question sur ta famille. Donc, tu parlais tout à l'heure de ton émancipation à Paris par rapport à tes parents, etc. C'est quoi le regard de ta famille sur les deux métiers que sont l'école de commerce et que sont les métiers artistiques du cinéma ? Est-ce que ça a une influence sur toi ?
Mon père, il est ingénieur, il est très analytique, cartésien, il a fait de longues études et il est très... il y a les études et les artistes, il a toujours été les artistes, mais c'était extérieur à lui, extérieur à sa famille. Pour lui, c'était impensable que Il me l'a jamais dit clairement, mais de comment je l'ai ressenti, j'ai l'impression que c'était vraiment, c'est les autres, c'est pas nous. Moi, en plus, j'ai toujours été, entre guillemets, quand j'étais jeune, j'étais la bonne élève qui travaillait bien. Moi, j'adorais travailler à l'école. Je suis très carrée, rigoureuse, etc. Et puis, j'ai toujours eu ce truc-là de faire les choses, mais au début, je ne me posais pas vraiment la question si j'aimais faire ça. En fait, je le faisais parce qu'on m'avait dit de le faire. Et je ne me disais pas, mais est-ce que j'ai le droit de dire que ça ne me plaît pas? Donc, j'étais dans cette dynamique. Et du coup, ouais, en fait, même l'école de commerce, je l'ai faite parce que ça faisait bien. Et puis, j'ai une conseillère d'orientation qui m'a dit, Anaïs, au vu de ton profil, je te vois faire cette école. Et du coup, finalement, quand j'ai eu ce déclic-là et que j'ai dû l'annoncer à mes parents, il y a eu un gros conflit qui est né parce que forcément, un changement, rejet. Et là, maintenant, ils ont compris, ça fait 3 ans bientôt. Ça fait ouais, 3 ans bientôt que j'écris. Donc, ils n'ont plus le choix. Ils ont compris que ce n'était pas une lubie, mais c'est vrai que c'est différent pour eux et ils ne s'y attendaient pas, je pense.
Ouais. Ils ont peut-être la peur financière.
Ah, complètement. Ils ont la peur financière parce que moi, je me suis retrouvée au RSA. Enfin, donc ouais, complètement. La peur financière, je pense, la peur de l'insécurité, ouais.
Ça se passe comment une scénariste qui débute financièrement?
Alors, une scénariste qui débute financièrement, ça se passe que soit bah, tu travailles à côté pour payer les factures, soit quelqu'un t'aide financièrement, parce que financièrement, au début, il n'y a pas d'entrée financière. Il n'y a que du bénévolat. Il n'y a que de l'entraide avec des gens qui sont comme toi, au même stade, des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices, des acteurs qui sont du même âge que toi ou même pas forcément, mais qui sont au même step que toi. Et c'est ben, OK, on va se débrouiller ensemble, on va essayer de faire quelque chose avec le peu de moyens qu'on a, mais en faisant ça à chaque fois, en réessayant, ben, un jour ça finira par payer.
Ok, et du coup, comment on fait pour rencontrer ces gens
Et du coup, comment on fait pour rencontrer ces gens? Bah alors, figure-toi qu'au début, comment je faisais? Je me suis dit, je vais aller sur LinkedIn. Et par contre, c'était super formateur, LinkedIn. J'ai rencontré tellement de personnes au début. Quand j'ai fait ma série et que j'avais un scénario de 80 pages, il y a des gens que je ne connaissais pas qui ont lu mon scénario, qui me l'ont corrigé, qui m'ont dit non, les scénaristes, parce qu'il y a des codes en fait que je connaissais pas. On m'a dit fais comme ça, sinon tu seras pas vu comme quelqu'un de crédible, comme un professionnel. Et sur LinkedIn, vraiment, c'est. Oh, mais j'ai commencé à me faire un réseau sur LinkedIn du coup, et c'est grâce à LinkedIn que j'ai rencontré même un réalisateur dont je te parlais tout à l'heure avec qui j'ai coécrit. Mais ça reste quand même restreint parce que LinkedIn c'est très virtuel, les gens ils habitaient pas forcément sur Paris. Et du coup, moi, je n'ai pas fait de formation dans le cinéma, donc je n'ai pas de personnes, je n'ai pas de classe, je n'ai pas de réseau à proprement parler. Donc, j'ai créé CineTalks. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis dit, OK, je commence à connaître du monde, mais je voudrais connaître plus de personnes. Et puis, si moi, je suis dans cet état-là, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Comment on peut faire? Ben, c'est pas grave, on va faire un truc tout simple. Ben, on va aller dans un bar tous ensemble, et on va se parler et petit à petit, on va se créer un réseau. Et je me suis dit, comment je vais faire? Encore une fois, Instagram. J'ai créé donc un compte Instagram en octobre 2021. Et tous les mois, on fait un ciné-talk, c'est-à-dire on se retrouve, tous les professionnels du cinéma, il y a de tous les métiers, des ingénieurs du son, des réalisateurs, scénaristes, actrices, vraiment de tous les métiers. Et on se retrouve autour d'un verre et on se crée un réseau. Grâce à ça, il y a déjà eu plein de projets. Moi, j'ai déjà écrit des scénarios pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui ont matché. Il y a plein de projets qui naissent de CineTalks et je suis trop fière de ça et j'espère que ça va grandir et que ça va aider le plus de personnes possible.
Ok. Est-ce que toi, tu ressens ce côté très parisien dans le milieu du cinéma?
Ah ouais, complètement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé CineTalks. Pourtant, entre guillemets, j'ai eu une petite chance parce que vu que j'habite dans le centre de Paris, je vois des gens et j'ai commencé à rencontrer des personnes qui sont déjà un peu établies dans le réseau. Et même eux, en étant mes connaissances, parce qu'on n'est pas encore amis, mais même en les connaissant eux, j'ai pas eu la porte d'entrée alors que j'avais les contacts. Donc je me dis que c'est vraiment ultra fermé et je trouve que c'est un milieu qui est établi depuis tellement longtemps et c'est l'un des seuls milieux qui n'a pas eu sa révolution. Parce que si on regarde au niveau de la musique, avant il y avait les maisons de disques et c'était eux qui décidaient de ci, de là, des investissements. Il y a eu la révolution. Maintenant tout le monde peut faire du son. Au niveau des startups, c'était pareil. C'était des grands fonds d'investissement qui choisissaient toujours les gens de machin, de telles écoles et telles écoles. Et maintenant, tout le monde peut entreprendre et avoir un investissement. Et je trouve que dans le cinéma, c'est pas encore le cas. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cinéma français, il est vachement restreint dans ses propositions parce que il y a pas de risque qui est pris. Et je trouve ça dommage.
Ouais, donc il y a encore un petit entre-soi. Ok. Ouais. Et les plateformes comme Netflix et tout ça, tu n'as pas l'impression que ça révolutionne un peu la façon de travailler? Non, ça reste toujours avec cette petite élite
Alors, je pense que si, effectivement, ils apportent une alternative et ils vont réussir petit à petit à faire bouger les choses parce qu'ils vont apporter plus de propositions que. Si je regarde par rapport au cinéma français, le cinéma français, il n'y a pas trop de films d'action, par exemple. Bah, sur Netflix, il y a plein de films français d'action. J'ai l'impression que dans le cinéma, il n'y a quasiment que du dramatique ou de la comédie. Bah, sur Netflix, il y a autre chose. Et du coup, ça, c'est bien. Après, ce qui est sûr, c'est que petit à petit, je ne sais pas comment ça va évoluer tout ça. Donc, c'est bien, ça a donné un bon coup de pied dans la fourmilière. Mais je pense qu'elle a besoin encore d'être un petit peu bousculée.
Ouais. Est-ce que tu as une notion, une idée un peu du temps que prend un projet entre le moment de l'écriture du scénario et le moment où on peut le voir à la télé ou au cinéma et puis le moment des rémunérations aussi?
Alors, je pense que c'est en termes d'années. Et au début, quand je me suis lancée dans ce métier-là, je me suis dit, mais non, jamais, ça ne va pas durer aussi longtemps que ce qu'on me dit, c'est pas possible, j'ai déjà mon idée. Au moment où tu as la première idée que tu l'écris, il y a 1000 idées qui arrivent quand tu l'écris, il faut repasser dessus, il faut le relire, il faut réécrire. Quand tu trouves quelqu'un qui est d'accord pour financer, bah lui aussi, il a son mot à dire, donc il faut réécrire avec cette personne. Là, tu peux commencer à toucher une rémunération, mais ce n'est pas la totalité de ce qu'on t'a promis. C'est un peu comme un échéancier, si tu veux. Au début, c'est « Ok, j'accepte de travailler avec toi. Ben, » au début, tu auras tant, ensuite tu auras tant. Et ça finit jusqu'au premier jour de tournage ou alors voire même fin du tournage. Et si moi, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je vais produire un film, là, on sera en phase de réécriture maintenant. Le premier jour de tournage, ce serait au moins dans un an. Donc, ça veut dire que j'aurais terminé d'être payée peut-être dans 2 ans, quoi. Dans un an ou 2 ans, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est très long.
Donc, du coup, il faut avoir plusieurs projets en même temps ?
Exactement, il faut avoir plusieurs projets en même temps.
Et combien on est capable de faire de projets en même temps ou dans une année ? Tu vois, intellectuellement, ça prend quand même pas mal de place, l'écriture d'un scénario ?
Alors, du coup, je pense que ça dépend si tu as un temps plein ou pas. Moi, quand j'étais à 100% de mon temps sur l'écriture, j'ai coécrit un film en 1 mois et demi.
Ok.
Et là, pour le coup, je faisais que ça. Et du coup, après, c'est parce qu'il y avait déjà l'idée. Enfin, on avait déjà l'idée. L'idée avait été apportée par l'extérieur, donc on n'avait pas eu cette phase de créer l'idée. Enfin, même si on a dû la recréer ensemble. Mais je pense que ça doit dépendre aussi des personnes. Mais si je me dis demain, je suis à 100% sur l'écriture, j'aimerais faire au moins 3 projets par an. 3, 4 projets, ce serait super. Mais au moins 2, 3 projets. Mais comme je te dis, ça dépend des projets, ça dépend des personnes.
Ouais.
Ça dépend de plein de choses.
Okay.
Il
n'y
a pas vraiment de bonne manière de faire, je pense.
Et donc, où est-ce qu'on va chercher du travail quand on est scénariste ?
Et quand on est scénariste, au début... On écrit des choses et on essaie de dire voilà ce que j'ai écrit, est-ce que ça vous plairait? Donc, quand on fait ça, c'est que ben, déjà au début, tu écris pour gratuitement, quoi. Tu écris des choses sur ton temps libre qui n'est pas encore rémunéré et tu l'envoies aux boîtes de production. Donc, tu as tout un travail de qui sont les boîtes de production. Ok, je les ai trouvées. Lesquelles me plaisent parce que moi, j'ai écrit une comédie et elles n'acceptent pas les comédies. Donc, tout un travail de recherche. Ok, il faut que j'envoie le dossier. Donc, il faut que je crée un dossier pour leur envoyer à tout le monde. Donc, ce dossier, je dois y passer du temps. Donc, il y a cette phase-là où je vais chercher les gens. Et après, je pense qu'il y a la phase où on vient te chercher, mais quand tu es connu, quand tu as déjà prouvé. Et j'espère qu'un jour, je serai dans cette phase-là.
Il y a des agents pour les scénaristes comme pour les acteurs ?
Ouais, il y a des agents pour les scénaristes comme des acteurs.
Ça te semble intéressant ? C'est difficile d'en rencontrer ? C'est comment ?
Alors, je t'avoue que j'avais regardé un petit peu. J'en avais échangé, mais avec des acteurs, pas avec des scénaristes qui étaient, entre guillemets, au même step que moi et qui avaient déjà des agents. J'ai l'impression que les agents, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'au début, quand tu débarques, tu dois un peu prouver à tout le monde que tu es la bonne personne, entre guillemets. Et même les agents, quand tu débarques et que tu as fait un petit peu de trois choses, tu peux essayer de partir à la reconquête, mais c'est souvent les agents qui viennent à toi aussi. Okay. Donc, finalement, quand tu commences et que tu connais personne, c'est un peu... là, il faut se débrouiller, quoi. Clairement, c'est... aller chercher tout le monde.
Ok. Et donc, les ciné-talks que tu organises, qui est-ce que tu invites ? Enfin, au départ, ça se passe comment ? C'est les gens que tu as rencontrés sur LinkedIn que tu as
conviés ? Non, sur Cinetalks, donc j'ai un compte Instagram surtout. Je le fais un peu sur LinkedIn, mais c'est vraiment sur Instagram où il y a pas. Alors, du coup, en fait, je fais des posts. Il y a tout type de posts. Il y a les posts qui annoncent les événements où dès que je balance un événement, c'est-à-dire j'ai trouvé le bar, je l'ai bloqué la date, j'ai réservé pour les personnes, etc. Je lance l'appel et je dis c'est bon, le Cinetalks, il est prévu pour tel jour. Qui veut s'inscrire ? Premier arrivé, premier servi. Et après, il y a une liste d'attente qui se fait. Puis après. Ça se fait comme ça. C'est pas vraiment moi qui invite des gens, j'invite pas des personnes en particulier, j'annonce que l'événement a été fait et puis qui veut venir, les personnes qui veulent venir m'écrivent et puis,
okay. Et puis je les inscris. Mais du coup, tu as déjà pas mal de trafic sur ton compte Instagram.
Oui, là je suis 7e. Je crois que c'est le 7e ou 6. Là, c'est le 16e Ciné Talks la semaine prochaine. Je rencontre entre 10 et 15 personnes par Cinetalks parce qu'au-dessus, avant, il y avait les restrictions du Covid et on me demandait de privatiser l'endroit et donc de laisser un petit billet, ce que je ne faisais pas, clairement. Du coup, je commence à bien avoir du... j'ai du trafic et je suis trop contente parce que hier, tu vois, quelqu'un m'a demandé une actrice selon profil. J'avais l'actrice en tête, je les ai mis en relation les deux. Il y a un réalisateur qui cherche une danseuse, j'ai mis une annonce pour qu'il trouve sa danseuse. Et moi, je suis trop fière de faire ce genre de choses parce que je me dis, je comprends même pas pourquoi ça n'existait pas avant.
Mais tu le fais gratuitement, du coup ?
Ouais, je le fais gratuitement.
Tu mets en relation, tu fais le boulot d'un agent, en fait.
En fait, je fais le rôle de... C'est un peu une communauté, j'ai envie de créer une communauté. C'est Cinetalk, c'est une communauté. En fait, je me dis, tu vois, on parlait tout à l'heure qu'il y a une communauté parisienne, ou pas forcément parisienne, mais active aujourd'hui dans le cinéma français qui est comme ça, et ils sont que entre eux. Nous, c'est pas grave, on va faire la même chose entre nous, et puis on va petit à petit, on va grossir, et un jour on va peser, et ce jour-là on nous écoutera. Mais pour l'instant, vu que on est entre nous, que personne veut nous écouter et que nous on veut bien s'écouter entre nous, moi je me dis, mais il n'y a pas de souci, faut qu'on crée une communauté, faut qu'on s'entraide. Donc tout ça doit rester gratuit, c'est de l'entraide, c'est une communauté.
Ok, trop cool. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces soirées ? Toi, tu crées des binômes ?
Pas du tout. C'est vraiment un truc, genre, c'est comme si on allait boire un verre entre potes.
On
ne connaît pas. Ouais. Les gens arrivent au compte-gouttes, donc on s'introduit. Puis à la fin, dès que tout le monde est là, on se fait un petit tour de table. Et puis après, les gens, ça match avec certaines personnes, il y a plus d'affinités. Il y a soit un grand groupe de parole où tout le monde se parle, ou alors des petits groupes. Après, on échange de place pour que tout le monde rencontre tout le monde. Et puis ça commence vers 19-20h. Parfois, ça se termine à 22h30. Et parfois, ça se termine même à 2h du matin.
Ok, donc c'est vraiment les soirées de networking, du réseautage. Idéalement, tu viens avec ta petite carte de visite pour laisser les contacts.
Et même pas, c'est un truc hyper décontracté. Okay. C'est genre, moi je trouve des bars avec des canapés, on boit de l'alcool ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé. Mais c'est vraiment un truc hyper décontracté, on est habillé comme si on était entre potes, quoi. Vraiment, et c'est pour ça, tu vois, pas cet aspect très... professionnel où je joue le rôle du professionnel, justement pas aspect authentique à fond, et on est des pères, on va s'aider, il y a aucun souci, on apprend à se connaître, il y a pas de retenue, tu vois, c'est vraiment on s'aide, on devient pote. Après, il y a des groupes qui se font.
Cool. Et où est-ce que tu le vois, ce projet, dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans
Franchement, ben là, ce qui est ouf, c'est que y a eu j'avais eu une première proposition de faire ça sous format émission. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours les cinétalks dont je t'ai parlé, où on se verrait en bar, etc., pour que le réseau continue de se créer. Mais il y aurait aussi un format émission qui serait filmé, où il y aurait 2, 3, 4 personnes, et puis on raconterait à chaque fois une thématique, je ne sais pas. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je fais des posts où j'annonce les événements, mais aussi j'essaie de faire des posts pour aider les gens sur les peu d'informations qu'on a. Parce que moi, quand j'ai débuté, je ne savais absolument rien. J'ai dû tout chercher sur Internet ou alors demander à des personnes parce que ce n'était pas très clair. Du coup, le dernier post, d'ailleurs, que j'ai publié il y a 2 jours, c'est « Tu as écrit un film, tu ne sais pas comment trouver une production. Ben, voici comment tu fais. 1, tu vas sur ces sites Internet, tu les identifies. Tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ben, je l'ai expliqué sur les réseaux sociaux. J'essaie aussi d'aider les gens au maximum. »
Démocratiser, ouais.
Ouais, exactement. Et du coup, dans 5 à 10 ans, je vois vraiment ça comme une grosse communauté qui, du coup, je ne sais pas sous quelle forme juridique ce serait. Parce que pour le coup, je sais pas, mais j'aimerais que ce soit énorme et que ça existe aussi aux États-Unis, qu'en fait je puisse aider un maximum de personnes à avoir toutes les bonnes valises et tous les bons outils pour se lancer dans le cinéma et avoir sa chance, quoi.
Il y avait eu à un moment donné un film qui avait été entièrement tourné, un long métrage depuis un iPhone. C'était il y a quelques années, ce truc là. Ça continue à se faire, ce genre de choses, ou c'était juste pour le délire?
Franchement, ça se fait. Hein. Dis-toi que là, maintenant, Cannes, ils vont instaurer des TikTok dans leur festival. Vraiment, ça se répond vachement, les formats téléphone. Ouais.
Est-ce qu'il y a un style qui, toi, te plaît plus au niveau du cinéma, dans l'écriture?
Alors, moi, ce que j'adore regarder, c'est les thrillers policiers. J'adore, où je comprends rien pendant le film et à la fin je comprends tout parce qu'il y a le fil rouge qui se délie et là je me dis ah mais c'est pour ça qu'il y avait ça, ok, j'adore. Et moi j'adore écrire des sujets un peu engagés, comédie dramatique, j'adore. Après je te dis ça, mais j'écris vraiment tout, donc c'est pas représentatif de mes écrits, mais j'aime bien faire ça aussi.
Est-ce que tu penses que le scénariste a un rôle, enfin, quel est le rôle que toi tu te donnes en tant que scénariste Tu parlais de ton ikigai dans l'interview écrite. Tu veux nous en dire 2 mots?
Tu veux dire quel est le rôle du scénariste pour moi dans ma vie ou le rôle du scénariste en général dans un film?
Dans un film ou enfin au niveau de la société?
Ah oui, ben là, par rapport aux scénaristes américains, c'est sûr qu'on souffre, hein, les scénaristes français, parce que les scénaristes américains, ils sont vraiment reconnus et récompensés socialement et financièrement par leur métier. En France, c'est le métier de l'ombre, c'est le métier ingrat du cinéma, alors que c'est la base sur laquelle se repose tout le film, quoi. Je trouve ça encore trop... trop injuste, mais je suis sûre qu'avec certains mouvements qui vont se mettre en place, il y aura un changement parce que les injustices sont, je l'espère, pas éternelles. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, les scénaristes en France, c'est un peu le métier de l'ombre, ingrat. Hein, tu écris un truc et puis après, dès que tu as donné ta page, ben, merci, au revoir, on va faire quelque chose et puis on va tous prendre ce qu'on a à prendre dessus, puis toi on va te donner un petit peu parce que ben ouais, t'étais là au début, mais bon, ouais, c'est un peu...
Du coup, quand t'écris, tu protèges par tes droits d'auteur? Comment ça se passe?
Ouais, en fait, quand t'écris quelque chose, tu le déposes à la SACD. En fait, la SACD, c'est la Société des auteurs. Et vraiment, quand tu es scénariste, c'est très spécifique. Tu n'as pas de régime de scénariste. Tu n'es pas comme les acteurs, actrices, réalisateurs, intermittents du spectacle. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, et tu es généré par tes droits d'auteur, comme tu dis. Et du coup, il faut être absolument, si tu es français et que tu veux être scénariste, tu dois être inscrit à la SACD, la base. Et ça, bah, si tu ne le sais pas, c'est sûr que tu pars avec un handicap. Donc, ouais, il faut s'inscrire avec la SACD. Et tout ce que tu écris, tu le déposes, donc ça veut dire que tu dois payer pour un dépôt qui n'est pas éternel. Enfin, si, tu as plusieurs Il y a plusieurs types de dépôts. Mais par exemple, si moi je veux déposer un film, je vais payer 30 euros ou 35 euros, je ne sais plus. Il sera déposé pendant 5 ans sous mon nom. Personne ne. Enfin, je garderai les droits. Jusqu'à ce que je rencontre un producteur qui va me dire, tu me cèdes les droits pendant 10 ans. Et là, après, il y a autre chose qui se crée. Mais ouais, c'est comme ça que ça fonctionne en France.
Ok, d'accord. Donc au début, tu payes pour travailler et puis tu espères qu'un jour ton investissement finira par payer, quoi.
Exactement.
Investis ton temps, ton argent, enfin beaucoup ton temps, un peu ton argent, et puis à
Ah,
un moment donné, tu espères que ça finira par payer.
exactement. Et après, il y a beaucoup de concours aussi. Je t'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ouais, pour essayer de se faire connaître, il y a plein de concours qui sont proposés de scénarios où du coup, tu écris et puis tu envoies en espérant être nommé ou récompensé. Petit à petit, tu crées ton chemin comme ça.
Ok. Tu as une idée un peu d'un salaire d'un scénariste qui arrive à en vivre?
Alors, dans la théorie, le scénario de base, c'est vachement réglementé, je crois. Je ne suis pas très, très calée sur le sujet, mais la base, je crois qu'un scénario, tu le vends 15 000. Alors, un scénario d'un long métrage, normalement, le salaire minimum, c'est 15 000 euros le scénario. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est 15 000 euros sur un échéancier. Donc, bah, c'est au début, un premier versement 2, 2, 2, et s'il faut, c'est 15 000 euros sur 2 ans. Mais après, il y a des scénarios qui sont vendus 80 000 euros en France. Il y a vraiment tout, ça dépend qui tu es. Ça dépend ouais,
Ouais.
avec quelle entreprise tu passes.
Après, plus tu as d'expérience, j'imagine, plus tu es reconnu et plus ils peuvent te le payer cher aussi ton scénario.
Exactement.
Ouais.
Ouais.
Ok, trop cool. Et ben donc, si on veut en savoir plus sur tout ça, on peut te retrouver donc sur Instagram, CineTalks tiré du bas community.
Exactement. Ouais.
Est-ce que tu as un dernier petit mot peut-être à nous partager pour les personnes qui nous regardent, qui sont souvent des femmes en reconversion, qui essaient de suivre leurs rêves?
Alors, mon petit mot, c'est il faut vraiment pas avoir peur parce que à chaque fois on a peur parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Au début, j'avais peur d'être au chômage. Quand j'étais au chômage, je n'avais plus peur. J'ai eu peur de tomber au RSA et quand j'étais au RSA, maintenant, j'ai plus peur de rien. Maintenant, je suis dans une situation complètement stable financièrement, mais c'est devenu quelque chose qui est connu pour moi et même tout ce qui est inconnu fait peur. Il faut juste passer le cap et dès que tu as passé le cap, il n'y a plus aucune peur qui te structure.
Ok. Donc, aller finalement rencontrer les pires situations pour ne plus en avoir peur, quoi.
Exactement, il faut pas avoir peur de les rencontrer.
Cool. Eh ben, merci Anaïs. On te retrouve sur
Avec plaisir.
Instagram et puis peut-être à Paris pour ceux qui peuvent venir à un talk avec toi. Et j'espère que tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui passeront par cette chaîne et qui te rencontreront comme ça.
Ça marche. Merci.
À bientôt. Ciao,
À bientôt.
ciao.